France Culture.
Le savant britannique qui travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés.
Mesmer, autrichien du XVIIIe siècle, est extrêmement attachant. C'est lui qui, pour la première fois, a opposé au magnétisme minéral, le magnétisme animal, et c'est lui qui a voulu guérir par ce magnétisme animal les bons bourgeois de Paris du temps qui venaient se confier à lui.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. En son temps, comme par la suite, ce personnage a été tout à la fois célébré comme visionnaire, assiégé comme guérisseur et fustigé comme charlatan. Parmi des passions incontrôlées, des haines débridées et des enthousiasmes frénétiques, une étrange histoire se dessine, la sienne, où la raison et la déraison furent invoquées de part et d'autre dans un rare enchevêtrement. Franz Anton Mesmer, puisque c'est de lui qu'il s'agit, Mesmer, le magnétiseur des lumières, l'inventeur de l'hypnose, se trouva au XVIIIe siècle adulé et piétiné, célébré et ridiculisé, selon un contraste dont on rencontre rarement l'intensité. Dans la belle biographie qu'il lui consacre, Bruno Bellost, mon invité, professeur émérite à l'université Panthéon-Sorbonne, l'appréhende selon toutes ses facettes et en suivant les sinusoïdes d'une carrière qui a connu entre Vienne et Paris des triomphes éclatants et de sombres déconvenues. Lucidité prémonitoire ou bien dérive sectaire d'un illusionniste virtuose, telle est bien l'alternative autour de laquelle va s'organiser notre conversation. Il y sera question d'un jeu de force où interviendront les pouvoirs publics, le monde médical, les académies scientifiques et une opinion publique en passe à cette époque d'affirmer sa puissance. Une opinion qui nourrit, parmi les corps souffrants et les angoisses individuelles ou collectives, des espérances destinées à accueillir toutes les crédulités. Avec, en fond de tableau, l'écho de beaucoup d'argent manié et l'ombre d'escrocs à l'affût. Faut-il inscrire Mesmer parmi eux, ou bien rallier le camp de ceux qui lui ont attribué une géniale prescience ? Nous n'allons pas prétendre, puisque tout bouge toujours dans la science et que ce qui semblait absurde devient parfois une réalité reconnue, immobiliser Mesmer le magnétiseur dans une seule case. Et il se peut bien d'ailleurs que ce soit plus intéressant comme cela. Et d'entrée de jeu, sans désemparer, je vous conduis dans les Deux-Sèvres, à Montalembert, pour entendre un reportage télévisé de Jacques Bertolotti sur le magnétisme animal, un extrait des actualités de Poitou-Charentes, le 1er février 1985.
Nous allons maintenant vous présenter un reportage qui traite d'un sujet qu'on a coutume de ranger parmi les sujets tabous. Une rencontre avec un magnétiseur. Un homme qui a poussé sa spécialité jusqu'à mettre au point tout un appareillage permettant le contrôle de ses travaux. Alors bien sûr, dans la patrie de Descartes, les dons de cet homme sont difficiles à admettre parce qu'ils échappent aux règles communément admises par la science et la faculté reste très réservée sur les phénomènes que vous allez voir.
Montalembert, dans les Deux-Sèvres, rencontre avec un personnage peu commun. Il y a 25 ans que M. R pratique le magnétisme animal. À force d'expérience, il a développé toute une théorie. Pour lui, tout être vivant émet un rayonnement constant sur une longueur d'onde qui lui est propre. Seule sa fréquence et son amplitude se modifient si l'individu est soumis ou non à des troubles. Seuil à ne pas franchir, 40 sur une échelle de 0 à 100, Monsieur R, par imposition des mains, est capable de faire remonter vers le maximum le potentiel magnétique de chacun.
je vous garantis que ça n'a rien à voir avec la médecine.
Comment vous définissez votre activité, alors, exactement?
Bon, c'est la radiesthésie, si vous voulez. La seule différence, qu'au lieu de travailler avec un pendule, on travaille par imposition des mains.
Et comment vous faites pour influer vraiment sur le magnétisme des gens, des animaux? C'est que vous avez vous-même une...
Oui, c'est un pouvoir qui n'est pas explicable, si vous voulez. Hein? Mais que ce soit des animaux, je préfère soigner des animaux ou des enfants. Parce qu'on me dit toujours, ouais, mais c'est parce que les gens y croient. Mais non, un enfant, il n'y croit pas. Hein? Et un chien, il n'y croit pas. L'appareil, est-ce qu'il y croit, lui? Et il fait bien la différence.
L'avantage de ce matériel est donc de visualiser les effets de ces passes magnétiques et d'appréhender magnétisme positif qui amène à un état de santé satisfaisant et négatif qui engendre angoisse, peur, panique, stress, à la fois pour l'individu et même pour la société.
Le magnétisme animal, disons qu'on vit tous à partir de ce magnétisme. C'est-à-dire qu'on est comme une batterie, on se charge, on se décharge selon les gens que l'on côtoie. Si vous venez nous voir, nous, qu'est-ce qui va se passer? On va vous recharger, c'est-à-dire qu'on va remonter votre potentiel magnétique de façon à rétablir l'équilibre. Et dès que c'est rétabli, la dépression s'évanouit, c'est terminé.
Rassurez-vous, pas de sensation particulière en tant que cobaye, mais c'est vrai, par l'imposition des mains, l'aiguille monte bien jusqu'au niveau du sang. Il faut, selon M. R, plusieurs séances pour être ainsi rechargé de manière satisfaisante.
Bruno Bellos, bonjour.
Bonjour.
Vous montrez bien dans votre biographie de Mesmer qu'il y a au fond deux descendances du personnage. Cet homme qui avait rêvé d'une reconnaissance scientifique et qui a eu le soutien, l'approbation, l'enthousiasme souvent de l'opinion publique, il est naturel que descendent de lui de courants différents.
Oui, il y a bien du courant en fait qui descendent de Mesmer, mais enfin, on peut en voir un courant qui a beaucoup intéressé les historiens de la psychiatrie, de la psychanalyse, etc. C'est celle qui va conduire à, finalement, via Charcot, l'hypnose, etc., à la psychanalyse et à toutes les psychothérapies du XXe et du XXIe siècle.
Freud, quelque part, a dit que c'est un personnage juste et noble.
Oui, Freud vivait à Vienne comme Mesmer. Il connaissait très bien, en fait, le personnage de Mesmer. Il était ami de Stefan Zweig, qui a écrit une biographie de Mesmer assez célèbre. Il avait une vraie admiration pour Mesmer. Mais à côté de ce courant lié au développement des psychothérapies progressivement tout au long du 19e, 20e jusqu'à nos jours, il y a aussi toutes les médecines parallèles, en fait. Toutes les médecines alternatives qui, souterrainement, en fait, ont continué jusqu'à nos jours. J'avoue que j'ai été étonné par cet extrait, de voir que quelqu'un, à la fin du XXe siècle, pouvait parler, en Charente, du magnétisme animal, même d'utiliser cette expression de magnétisme animal, qui en principe est complètement tombé en désuétude.
Et il se défend d'ailleurs contre l'idée qu'il y aurait une autosuggestion des malades, en disant « mais je m'occupe des enfants et des animaux, je les guéris, et il n'y a pas chez eux d'autosuggestion ».
C'est effectivement très intéressant, parce que ça renvoie aussi au débat qu'il y a eu, disons, au tout début du XIXe siècle, entre les héritiers directs de Mesmer qui pensaient qu'effectivement il y avait un fluide physique, il y avait une réalité physique dans le magnétisme animal, et que c'était ce fluide qui agissait, qui pouvait se concentrer dans le corps du thérapeute, qui agissait sur le malade, et puis tous ceux qui ont développé l'idée, dans des termes qui peuvent varier, mais qui au fond reviennent toujours à l'idée que, en fait, c'est un phénomène psychologique, c'est un phénomène de suggestion, en fait. Et donc c'est par la suggestion, c'est par l'interaction entre deux personnes qu'apparaît ce phénomène extraordinaire qui est celui de l'hypnose, en fait.
Hypnose, qui est un terme qui surgit seulement au 19e siècle, mais qui correspond à ce que déjà...
Oui, voilà. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, le terme de magnétisme animal, comme je l'ai dit, on n'utilise plus. Mais on a remplacé, donc c'est un médecin écossais, Baird, qui a utilisé ce terme d'hypnose, et ça a été repris. En fait, pour une raison très simple, c'est que magnétisme animal, c'était justement trop associé à ce qu'on vient d'entendre. Donc les médecins qui étaient intéressés par les pratiques du magnétisme animal ont préféré utiliser un terme, entre guillemets, plus scientifique, plus savant, et ça a été hypnotisme, ça a été hypnose.
Mais qui maintenant est entré dans un vocabulaire très, très courant. J'observe qu'il y a un homme de scène qui s'appelle Mesmer, il a ajouté un S à son nom, M-E-2-S-M-E-R. comme l'ancien homme politique majeur de la Ve République qui a été ministre des Armées et Premier ministre, qui n'a évidemment rien à voir. Cet homme s'appelle Mesmer et il réunit dans des théâtres régulièrement, aujourd'hui encore, des foules assez nombreuses qui le prétend ou qu'il réussit à hypnotiser collectivement.
Oui, parce que là aussi, l'histoire du magnétisme animal est associée, je pense de façon absolument infondée, mais a été associée, et associée souvent encore à la magie, et y compris à la magie des magiciens de théâtre. Donc en fait, dès le 19e siècle, et ça continue encore avec un personnage comme Mesmer, il y a des gens qui ont utilisé l'hypnose, en fait, réelle ou, comment dire, simulée, pour créer des spectacles. C'est pas du tout nouveau, le personnage Mesmer avec deux S. Il s'inscrit dans une tradition qui aussi vient de notre personnage, Franz Anton Mesmer, le médecin qui vivait au début du XVIIIe siècle.
Alors, nous allons nous saisir de sa personnalité, qui est effectivement très très riche, j'ai le goût de dire coruscante, et qu'il faut que vous nous restituiez, Bruno Bellost, en partant naturellement de ses premières années, encore qu'elles soient assez obscures.
Les premières années, c'est toujours difficile, on n'a pas beaucoup de documents. Donc c'est quelqu'un qui est né, en fait, au bord du lac de Constance, donc c'est un Allemand, du sud de l'Allemagne, dans un milieu relativement modeste, et qui va, monter très vite. C'est un jeune homme visiblement très doué, qui est formé par les jésuites en Allemagne.
C'est pas sans importance, parce que les jésuites vont être ses adversaires avérés.
Oui, il a été, je pense que l'influence jésuite a été fondamentale pour lui, mais il voulait d'ailleurs, il était destiné à devenir prêtre en réalité, et donc il a rompu et il a rejoint le camp qui était en train de monter en puissance dans l'Allemagne, cette Allemagne catholique du Sud, qui est celle des Lumières, des ceux qu'on appelle les Aufklärer. Donc il va passer des jésuites aux Aufklärer. Et il va décider, finalement, dans des conditions qu'on a un peu de mal à documenter, mais de partir à Vienne, parce que ce sud de l'Allemagne est en fait politiquement très largement dominé par l'Autriche. D'ailleurs, on l'appelle à l'époque très souvent l'Autriche antérieure. Et donc il va partir à Vienne et il va étudier la médecine.
Vous parlez d'une liberté de critique dans le respect des hiérarchies. L'homme à Vienne.
Je pense que ça définit assez bien ce qu'a pu être non seulement l'attitude de Mesmer, mais beaucoup de ses contemporains qui naissent en fait dans le cadre de l'absolutisme, en fait, de l'absolutisme éclairé. Et donc, il est à la fois quelqu'un qui est un homme des Lumières, donc évidemment très... Voilà, il adhère à l'idée de la critique, de la liberté de penser, mais en même temps, il est dans une société où les hiérarchies sont très importantes. Et donc il va rechercher, au moins jusqu'à la Révolution, toujours la protection des princes, la protection des puissants. Et là, il y a une tension, à mon avis, entre cette liberté qu'il revendique et puis ce souci d'être toujours, de trouver des protecteurs. Il n'est pas le seul, en fait. Je pense que c'est quelque chose qu'on retrouve chez beaucoup d'intellectuels de l'époque, et pas simplement à Vienne. Mais je pense que cette tension va jouer un rôle très important.
Alors ce magnétisme animal, il va falloir le définir. Quelle est l'idée initiale, ce lien entre les planètes, le mouvement des astres et chaque individu? Écoutez cet extrait du précis historique des faits relatifs au magnétisme animal de Mesmer. C'est une lecture que je recueille dans les Nuits magnétiques d'Alain Weinstein sur France Culture le 19 octobre 1970.
La funeste habitude des médicaments opposera longtemps des obstacles au progrès du magnétisme animal. Dans les maux et les innombrables souffrances qui nous tourmenteront, nous croirons aux dangereuses paroles et promesses d'un certain ordre d'hommes ignorants, vains et superbes, qui prétendront connaître les remèdes des maux qui nous affligent, et nous perdrons toute confiance dans la nature. Toutes les puissances des langues ne suffiront pas pour dénommer les genres divers des maladies qu'ils feront naître, et qui ne seront que les tristes et cruels effets de leur fausse science. Et la terre retentira de toutes parts des gémissements et des cris de la douleur, car elle sera couverte d'hydropisie, de phtisie, d'apoplexie, de catalepsie, de manie, de folie. Et ils accuseront la nature de tous les maux qu'ils auront causés.
Cette attaque contre les médicaments et les actions, les interventions des médecins intervient évidemment à une époque où il y a de très violents gestes avec les saignées, les emplâtres. Et c'est au fond des aspects de la médecine de Mesmer, que vous le montrez bien, qui est d'une certaine douceur.
Bon, il s'inscrit en fait dans un mouvement qu'on appelle parfois le néo-hippocratisme. La référence est Hippocrate, où l'idée c'est que c'est la nature en fait qui soigne. Et que utiliser des médicaments, en fait, c'est quelque chose qui n'est pas naturel et qui, au fond, n'est pas bon pour la santé. Donc là, on retrouve des thèmes qui, évidemment, qui sont tout à fait d'actualité, de la médecine naturelle, mais qui étaient très vivaces à la fin du XVIIIe siècle.
Alors, à la base, l'idée fondamentale qu'il y aurait une gravitation universelle qui serait à l'origine du mouvement des corps célestes et du phénomène des marées qui... ne serait elle-même que l'effet d'une force, je le cite, qui est très probablement le fondement de toutes les propriétés corporelles, qui, en effet, dans les plus petites particules des fluides et des solides de notre machine, tend, détend et agite la cohésion, l'élasticité, l'irritabilité, le magnétisme et l'électricité. L'électricité qui est au début de sa présence, on commence de la connaître. Force qui peut, sous ce rapport, être appelée gravité animale. Donc, il combine assez originalement la théorie newtonienne de la gravitation et le modèle physiologique de la circulation du fluide nerveux.
Oui, tout à fait. Bon, c'est le cœur de la dimension physique de ces idées. C'est effectivement qu'il existe une force ou un fluide universel qui agit sur tous les corps, et y compris les corps vivants, y compris le corps humain. Et donc, qui agit... vraiment dans les parties les plus fines du corps humain, et en particulier sur les nerfs. Et donc, il y a cette action universelle du fluide qui est à l'origine, en fait, pour Mesmer, de la santé, en fait. L'homme doit vivre, disons, en accord avec ce fluide qui est absolument décisif, donc qu'il prétendait avoir découvert. Il pensait que c'était sa grande découverte, en fait. Du point de vue physique, c'est d'avoir découvert l'existence de ce fluide. Alors, ce fluide, dans le texte que vous avez cité, il l'associe à gravité animale. Mais ça, c'est effectivement, quand on en a parlé pour la première fois, c'était en fait dans sa thèse de 1766, sa thèse de médecine à Vienne, où il parle de gravité animale et il se réfère à Newton. En fait, quand il inventera sa méthode de thérapie, c'est-à-dire des années plus tard, vers 1773-1774, il va changer la terminologie, et au lieu de parler de gravité animale, il parlera de magnétisme animal, parce que c'est à ce moment-là, en fait, ce qu'il pense, c'est qu'avec des aimants, on peut peut-être simuler l'action de ce fluide universel.
Parce que c'est quand le fluide ne circule plus que survient la maladie.
Exactement.
Pour lutter contre elle, il faut restituer la circulation du fluide en question.
C'est l'idée qu'il y a des blocages, qu'il y a des obstructions, qui d'ailleurs n'est pas un terme, comment dire, propre à Mesmer, mais qu'on retrouve chez beaucoup de médecins de la fin du XVIIIe siècle. L'idée que la maladie, c'est lié très souvent à des obstacles, à des obstructions. Il s'agit de débloquer d'une manière ou d'une autre, et donc pour Mesmer, c'est par l'action de ce fluide, et par les marées qu'il évoque, donc les mouvements de force et de contre-force, qu'on peut débloquer des choses et rendre la santé, en fait, au corps malade, au corps inharmonique, parfois, comme il le dit.
Important des aimants, vous le montrez bien, vous le dites.
Ça a été important, oui et non. C'est-à-dire que ça a été important parce que il a fait sa thèse en 1766, mais il a développé sa méthode thérapeutique bien après, puisque c'est simplement en 1774, donc 8 ans après, qu'il va développer sa méthode thérapeutique. Et pourquoi ? À quelle occasion ? C'est parce que un personnage de Vienne à l'époque, qui s'appelait le père Hell, un jésuite, a prétendu utiliser des aimants pour soigner, faire de la magnétothérapie. Et donc il a repris ce procédé, mais il l'a intégré dans sa théorie. Et donc il a utilisé le terme de magnétisme. Mais je voudrais insister sur ce point. Ce magnétisme animal, en fait, n'a rien à voir avec le magnétisme au sens le magnétisme minéral, en fait. C'est autre chose. Et il l'a bien dit, d'ailleurs, en prétendant, ce que les gens n'ont pas compris à l'époque, ça a scandalisé, c'est qu'il pouvait magnétiser non seulement du fer, mais qu'il pouvait magnétiser un morceau de papier, qu'il pouvait magnétiser un chien, mais parce que ce n'est pas le même magnétisme, en fait. Ce n'est pas le magnétisme au sens où on l'entend, c'est ce fluide.
Même un arbre dont du coup, les feuilles en tombant pourront avoir des propriétés très positives.
Absolument. Donc, il a, comment dire, magnétisé beaucoup d'arbres et pour faire des méthodes collectives de soins.
Toujours la nature contre la raison dominante et prétentieuse. Sa thèse s'appelait « Influence des astres sur le corps humain ».
Ah oui, non, c'est la nature. Donc là, vraiment, c'est la nature au sens le plus large. C'est, on peut presque dire, mais je ne souhaite pas vraiment utiliser cette expression, mais on peut dire que c'est le cosmos. Je ne souhaite pas l'utiliser parce que dans l'historiographie, en fait, chez les adversaires de Mesmer, parfois chez ses partisans, il y a toujours eu cette référence au cosmos avec l'idée d'un macrocosme, d'un microcosme, une dimension un peu magique. Et c'est la thèse, en tout cas, de mon livre. Je pense que c'est une fausse piste, en fait. Que Mesmer n'ignorait pas totalement ces choses-là, mais il ne s'inscrit pas, en fait, dans cette tradition.
Quelle place prend-il, alors, dans cette société qui entoure le souverain Joseph II, dans cette Vienne de l'Aufklärung et en même temps de la tradition et de l'autoritarisme?
Il connaît très bien tout ce monde, en fait, parce qu'il est formé à Vienne. C'est une ascension sociale assez spectaculaire. Il devient, docteur de cette université qui est quand même une des meilleures universités dans le domaine de la médecine en Europe. Donc, c'est pas rien.
Il se veut médecin, c'est important
d'insister. Il se veut médecin, mais il fait aussi un très beau mariage. Il est protégé, en fait, par le doyen de la faculté de médecine, qui est un swap, qui est un compatriote, en fait. Et donc, il va faire un très beau mariage avec une veuve qui
plus,
est...
Plus âgée que lui et plus riche. Et riche.
Oui, qui est l'héritière du plus important pharmacien de Vienne. Et donc, il va s'installer dans un magnifique, on peut l'appeler ça parfois un palais, une parfaite, très belle maison. Il va, jouer le mécène. Il connaît, effectivement, toute la haute société viennoise.
Cette sociabilité est importante, et en particulier, c'est aussi un homme qui est proche des musiciens. Et il est notable qu'il fait connaissance, dès ce moment-là, du jeune Mozart. Il voit aussi Gluck et Haydn, mais Mozart, c'est évidemment frappant. Puisque plus tard, après la chute de Mesmer, Mozart ironisera sur le personnage dans un moment fameux de Così fan tutte. Rappelez-nous ce qu'il en est.
C'est la pièce raconte une histoire d'amour, si on veut. Et donc, c'est deux personnages qui décident de mettre à l'épreuve, en fait, les femmes qu'ils aiment. Et donc, ils se déguisent et se présentent sous la forme de deux Albanais. Ils les séduisent, en fait. Et à un moment donné, il y a un de ces Albanais qui prétend s'être suicidé, qui va mourir. Et donc, il y a une servante qui fait partie du complot qui va le réveiller. Et elle va utiliser pour ça le mesmérisme. En tout cas, ce qui est dans la pièce est appelé, l'opéra est appelé la pierre mesmérique.
C'est ce moment, et le traitement est le suivant, proposé par Despina. C'est ce morceau d'aimant, la pierre mesmérique, qui a son origine en Allemagne et a été ensuite si célèbre là-bas en France. Dans quelques heures, vous verrez, par la vertu du magnétisme, ce paroxysme finira, ils reviendront à leur première humeur. Dérision de la part de Mozart.
Oui, effectivement, en général, c'est ce qu'on dit, dérision. Effectivement, c'est dans un passage comique. Mais, à mon sens, je ne pense pas vraiment que ça signifie que Mozart se moquait de Mesmer. En
fait. Vous y voyez un peu de tendresse rétrospective?
Oui, exactement. D'autant plus que c'est un aspect biographique. La première chose qu'on peut dire, c'est quand même très stupéfiant que Mesmer est entré dans l'histoire, parce qu'il est un personnage totalement inconnu, non pas par le magnétisme animal, qui viendra plus tard, mais parce qu'il a rencontré Mozart. Et la première mention qu'on a de Mesmer, précise, ce sont les lettres de Mozart, de Wolfgang, de son père. C'est comme ça qu'on découvre en fait le personnage. Et ensuite, Mesmer partira à Paris, et donc la relation entre Mozart et Mesmer semble avoir cessé, mais en fait il est revenu à Vienne, Mesmer, justement pendant la Révolution. Et moi, c'est ce que j'explique dans mon livre, j'ai une série d'arguments qui me font penser qu'en fait Mesmer et Mozart se sont retrouvés.
À Vienne, Mesmer connaît des hauts et des bas, si je puis dire. Il y a en particulier la fameuse affaire Paradis.
Oui, alors ça a été un peu le tournant de sa vie. Et c'est l'épisode le plus célèbre de sa vie, en fait, qui a donné l'occasion à beaucoup d'auteurs, de romanciers, de parler de Mesmer. Donc, effectivement, c'est une histoire assez extraordinaire. Bon, je la résume en deux mots. Hein.
S'il vous plaît.
C'est une jeune fille, très douée pour la musique, c'est une pianiste, mais qui est aveugle. Et elle est aveugle, elle est tombée aveugle à 4-5 ans, je crois. Et donc, Mesmer va entreprendre de lui rendre la vue par l'utilisation du magnétisme animal. Et il réussit. Il réussit, en tout cas, c'est ce qu'il prétend. Et donc, c'est un événement à Vienne. Et donc, les gens viennent voir. Et après cette phase de réussite, en fait, les parents de cette jeune fille s'inquiètent et veulent la retirer de chez Mesmer et finalement prétendre ou affirme qu'elle n'est absolument pas guérie, qu'en fait elle est toujours aveugle. Et là, c'est le scandale.
Et c'est une des raisons pour lesquelles il doit quitter Vienne pour se rendre à Paris où il espère pouvoir s'affirmer dans un nouveau théâtre. Un théâtre très différent parce que la cour n'est pas au centre, elle est à Versailles et l'opinion publique a plus d'importance, bien plus d'importance.
Oui, donc en fait, il est grillé à Vienne. Je ne pense pas qu'il ait été chassé, comme certains l'ont dit, de Vienne, mais il a décidé en fait de partir. Donc il va quitter sa femme, il va quitter tout le monde dans lequel il a vécu. Il arrive à Paris.
En célibataire,
dans cette ville qu'il ne connaît pas, et qui effectivement est très différente de Vienne. Donc c'est un aspect intéressant sur lequel j'insiste dans ma biographie. C'est le contraste entre ces deux villes, qui sont d'importance presque comparable. Enfin, Paris est plus grand que Vienne, enfin, ce sont deux très grandes capitales, mais très différentes, puisque à Paris, nous sommes dans les dernières années, enfin, les dernières décennies de l'Ancien Régime, c'est déjà un air de liberté, en fait, qu'on voit en particulier dans la vie intellectuelle, donc, et dans la vie aussi médicale.
Naissance d'une opinion publique dont il va attirer avantage, et donc de mode collective à la fois puissante et fragile.
Voilà, donc ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que Mesmer, je pense, a toujours, comme beaucoup d'hommes de son temps, d'intellectuels de son temps, a vécu dans une sorte de tension entre, d'une part, une société très hiérarchisée dans laquelle on a des protecteurs, les intellectuels ont des protecteurs, etc., donc ils sont insérés dans une société d'ordre, et puis, d'autre part, une société qui est en train de développer l'espace public, la liberté, etc. Et donc, Mesmer se trouve entre les deux. Il va très vite comprendre le rôle de l'opinion, il est intelligent, donc ce qui n'existait pas vraiment à Vienne, mais qui existe à Paris. Et il va s'appuyer sur l'opinion publique, avec des hésitations, des tensions, pour essayer de l'emporter et de convaincre qu'il a fait une très grande découverte.
Avec des procédés qui deviennent très vite notoires, et qui sont célébrés par beaucoup de gens de cette classe nouvelle en train d'émerger, les bourgeois en particulier à Paris, et qui se fondent sur une certaine pratique du magnétisme que reflète cet extrait d'un manuel que je vais vous faire entendre. C'est un extrait des Chemins de la connaissance de Robert Amadou sur France Culture en mars 1978. Manuel pour le magnétisme.
Qu'est-ce que le magnétisme? C'est la propriété qu'ont les corps d'être susceptible de l'action d'un fluide universellement répandu qui environne tout ce qui existe et qui sert à entretenir l'équilibre de toutes les fonctions vitales.
Comment faut-il toucher un malade pour lui faire éprouver les effets du magnétisme?
Il faut d'abord se placer en face de ce malade, le dos au nord, et approcher les pieds contre les siens. Ensuite, porter, sans appuyer, les deux pouces sur les plexus des nerfs qui se trouvent au creux de l'estomac, et les doigts sur les hypocondres. Il est bon de temps en temps de promener les doigts sur les côtés et principalement vers la rate et de faire changer de place au pouce.
Après avoir continué environ un quart d'heure cet exercice, on opère d'une autre manière et cela relativement à l'état du malade. Par exemple, si c'est une maladie des yeux, on porte la main gauche sur la tempe droite du malade et la main droite sur la tempe gauche. On fait ensuite ouvrir les yeux au malade et on leur présente les pouces à une très petite distance et on les promène ensuite depuis la racine du nez tout autour de l'orbite.
Nous le voyons, Bruno Belloste, notre homme, notre mesmer, en train de pratiquer ce type de magnétisme.
Oui, je pense que ça rend bien compte de la manière dont Mesmer procédait, donc depuis sa découverte en 1774. Et c'était spectaculaire, effectivement.
C'est une nouvelle vie à Paris, hein. Il a 44 ans, on est en 1778.
Alors quand il arrive à Paris, en fait, il n'est pas tout jeune, effectivement. Il n'est déjà pas tout jeune quand il fait cette découverte, en fait. Donc il y a toute une première partie de sa vie, 30 ans de sa vie, sur lequel on sait relativement peu de choses. C'est donc un homme qui s'est révélé relativement tard. Donc effectivement, il a 44 ans quand il arrive à Paris.
Avec un succès immédiat et contesté aussitôt, mais un succès d'opinion remarquable que beaucoup de témoins ont relaté.
Oui, d'abord il a été précédé, c'est l'époque des journaux, hein. Donc les journaux en ont pas mal parlé en fait, et c'est intéressant de voir ça d'ailleurs, que les journaux français ont traduit des textes allemands, et donc les gens bien informés sont au courant quand il arrive, donc il a déjà un certain succès de curiosité, et puis en plus il va essayer très vite, parce que c'est ça le but de son voyage, il va essayer de se faire reconnaître par les grandes institutions scientifiques de l'époque, c'est-à-dire d'abord et avant tout l'Académie des sciences. Et il va échouer complètement d'ailleurs.
Restituez-nous, Bruno Belloste, cet homme arrivant à Paris, comment réussit-il à s'affirmer peu à peu, à gagner beaucoup d'argent et à s'installer de façon ostensiblement plantureuse?
Ça s'est fait progressivement en fait. Ça a été assez rapide, mais ça ne s'est pas fait immédiatement. En fait, quand il arrive, il est assez connu, donc il a un petit succès d'estime. Il va même prendre quelques malades qu'il va soigner. Il va au village de Créteil, où il crée une petite clinique, si on peut dire, il soigne quelques malades. Mais c'est très peu de choses, en fait. Mais il fait la connaissance, à ce moment-là, d'un médecin important qui s'appelle le docteur Delon, qui va devenir son disciple. Et avec son soutien, il va finalement se décider, chose qu'il n'avait jamais fait à Vienne, a créé un véritable cabinet où il va soigner des malades. Et là, c'est le succès. Donc c'est en fait en 1780 que, donc ça fait à peu près un an et demi, deux ans qu'il est arrivé à Paris, que là, brutalement, il y a l'explosion et un succès par de bouche à oreille, hein, certainement. Hein, les gens viennent et enfin, j'ai même des éléments, des cas où on voit très bien le bouche à oreille. Des malades qui se précipitent, des malades qui ont été soignés, qui préviennent dans la famille. Ça se diffuse très très vite. Et là, c'est le grand succès.
Et il est d'ailleurs un metteur en scène de son propre personnage. Il accueille les gens avec des pantoufles en or et une robe de soie couleur lavande. Voilà l'ambiance.
Alors ça, c'est... disons, c'est la légende de Mesmer. Est-ce que c'est vrai? Disons, j'en doute beaucoup. D'abord, premièrement, il faut savoir que quand il arrive à Paris, il s'installe dans un petit appartement, en fait, qui se trouve dans le Marais, qui n'a rien d'un palais, en fait. Et c'est simplement en 1783 qu'il va s'installer à l'hôtel de Coigny, où là, il crée une sorte de clinique sur un grand pied. Et là, ses adversaires l'ont décrit toujours, en particulier le docteur Paulet, avec des habits extraordinaires. Je pense que c'est une façon de le présenter comme un magicien et que ça reflète assez peu la réalité, en fait. En tout cas, c'est mon avis.
Vous voulez entendre sa voix, j'imagine. Eh bien, je vous la propose.
Oui,
voilà un texte inédit qui décrit la maison de Mesmer. C'est un texte lu par Andrea Brusque dans « L'art et la matière » de Jean de Loisy sur France Culture le 4 octobre 2020.
La maison de Mesmer est comme le temple de la divinité. Tout y annonce un attrait, un pouvoir inconnu. Ce sont des barreaux magnétiques, des baquets fermés, des baguettes, des cordages, des arbustes fleuris et magnétisés, divers instruments de musique, entre autres l'harmonica, dont les tons flûtés éveillent celui-ci donnent un léger délire à celui-là, excitent le rire et quelquefois les pleurs. Joignez à ces objets des tableaux allégoriques, des caractères mystiques, des cabinets matelassés, des lieux particuliers destinés aux crises. Un mélange confus de cris, de hoquets, de soupirs, de chants, de gémissements. On est forcé de convenir que ce nouveau genre de spectacle est très piquant et qu'il ne fallait rien moins que le plus fort génie pour le produire.
France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet.
Ce Jean-Jacques Paulet, Bruno Bellos, qui est un médecin et un journaliste à la fois, est-il si sévère que cela dans cette description ? Tellement hostile ?
Oui, il est hostile, clairement. D'ailleurs, je pense que, à vrai dire, il a fait deux ouvrages, je crois. C'est financé, en fait. Ça fait partie de la campagne qui est lancée par le pouvoir royal, en fait. Parce que, en 1784, donc c'est l'apogée, on va en parler, je pense, avec la Société de l'Harmonie, et le pouvoir royal s'inquiète et donc lance une campagne, en fait.
Il s'inquiète, mais néanmoins, le bruit a couru que Marie-Antoinette a porté grand intérêt à Mesmer, s'étant acquis de sa personnalité auprès de son frère, Joseph, à Vienne. Oui. Et aurait même... Alors ça, c'est Alexandre Dumas qui l'imagine dans Le Codier de la Reine, ce fameux roman auquel nous avons naguère consacré une émission. Il imagine qu'elle vient déguisée pour consulter Mesmer.
Donc évidemment, ça, c'est, ça sort de l'imagination d'Alexandre Dumas. Il est possible qu'elle ait rencontré Mesmer, ce n'est pas invraisemblable. Mais bon, on n'en sait rien, de toute façon. Ce qui est sûr, c'est que quand Mesmer est arrivé, il ne semble pas qu'elle ait montré un intérêt particulier. Mais quand Mesmer est devenu vraiment à la mode, donc comme je l'ai dit, c'est-à-dire à partir de 1780, elle s'est intéressée. Et elle a envoyé même des malades. La duchesse de Chaulnes, qui était une de ses proches, qui était très malade, qui avait un cancer. En fait, d'ailleurs, elle ne survivra pas. Mesmer ne la guérira pas. Mais elle l'a envoyée chez Mesmer. Seulement ça, tous ces épisodes-là, ça presse. Il faut voir la chronologie fine, en fait. C'est plutôt entre 81 et 82. Ce n'est pas 84 qui est le moment où Mesmer... a développé une clinique sur un grand train et aussi subi des attaques comme celle de Paulet.
En tout cas, puisqu'il s'agit de Marie-Antoinette, il n'est pas tout à fait surprenant qu'à Versailles, dans une exposition en 2011, on ait présenté le fameux baquet de Mesmer. Et naturellement, chacun attend que ce baquet surgisse dans notre conversation. Eh bien, le voici. C'est un extrait des Nuits magnétiques d'Alain Weinstein sur France Culture le 19 octobre 1978.
C'est une cuve d'environ 6 à 7 pieds, plus ou moins, de diamètre, de 18 pouces de hauteur. Dans l'intérieur de cette cuve est un double fond, sur lequel on met des éclats de bouteilles cassées, du sable, des pierres, du soufre en bâton concassé, ainsi que de la limaille de fer. Le tout est rempli d'eau et recouvert d'un plancher cloué à la cuve. On pratique sur la superficie du couvercle, à 6 pouces de distance des bords, différents trous pour laisser passer des tiges de fer disposées de manière qu'une de leurs extrémités puisse pénétrer dans le fond de la cuve et l'autre se diriger, par le moyen d'une courbe, sur le creux de l'estomac des malades ou telles autres parties affectées.
Alors ça, c'est une très bonne description de ce qui est le baquet qui est resté célèbre, hein, le baquet magnétique, qui en fait... une création de Mesmer relativement tardive, je veux dire, c'est quelque chose qu'il a, entre guillemets, inventé quand il était à Paris, lorsqu'il a commencé à avoir vraiment beaucoup de malades.
Ça permettait d'en traiter plusieurs à la fois.
Voilà, exactement. C'est pas du tout quelque chose qu'il utilisait quand il était à Vienne. Mais on retrouve dans quand on voit comment fonctionne ce baquet, enfin des éléments évidemment essentiels de sa théorie, c'est-à-dire le fait qu'il y a un fluide universel, ça c'est à la base de sa théorie physique, et ce fluide dont la circulation est évidemment essentielle pour le maintien de la santé, peut être en fait stocké. Et de ce point de vue-là, c'est comme l'électricité, évidemment. Je pense qu'il pense à l'électricité, il pense à la bouteille de Leyde qui permet un condensateur. Donc on peut stocker, donc c'est le corps humain qui peut stocker, vous l'avez évoqué, ça peut être un arbre qui peut stocker le fluide, mais... c'est aussi cet appareil. Et donc, l'eau peut stocker le fluide, c'est de l'eau magnétisée, Et après, comme vous avez des tiges de fer qui sortent du baquet, les gens prennent la tige de fer, le fluide va circuler et les malades se tiennent, font la chaîne. Et comme ça, tout le fluide circule et on peut soigner, non pas une seule personne, mais un ensemble de personnes.
On voit bien comment, chez Mesmer, on est passé de la première période où ce sont les fluides universels qui arrivent chez l'homme au moment où ils peuvent, ces hommes-là, se le transmettre les uns aux autres.
Oui, c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'il y a une mutation de sa pratique médicale qui, évidemment, renvoie aussi à des nouvelles pratiques sociales. Il y a des groupes, il y a des gens qui... Il y a une sociabilité qui se crée autour de ce magnétisme animal où le baquet joue un peu le rôle, voilà, c'est de la table où on se réunit, enfin, c'est le lieu où se réunissent les malades. Et donc là, c'est toute une dimension nouvelle qui apparaît dans le magnétisme animal, qui n'était pas, en fait, au départ, qui est l'interaction, en fait, entre les personnes, et pas simplement entre le thérapeute et le malade, mais aussi entre les malades, qui crée une sociabilité qui va finalement donner lieu à la création d'une véritable société qui sera la Société de l'Harmonie.
C'est quoi ?
Alors la Société de l'Harmonie, c'est une société créée par souscription.
Il y en avait beaucoup à l'époque.
Donc c'était une pratique assez courante pour rassembler de l'argent, on crée une société. Et donc le but de cette société, la Société de l'Harmonie, c'est de permettre à Mesmer d'enseigner à des disciples. Et là, je voudrais insister sur un point, c'est que Mesmer, il avait dans sa thèse donné un peu les principes de sa théorie, mais en fait, il n'était jamais entré dans les détails. Donc c'était le secret de Mesmer. Il a beaucoup hésité, en fait, à révéler ce dit secret, et finalement, il a accepté en 1784, parce qu'il n'avait pas finalement tellement le choix.
C'est là qu'on l'accuse d'occultisme, qu'on retrouve les tentations.
Oui, l'idée du secret, l'idée d'occultisme. En fait, il y a des raisons pour lesquelles il ne souhaitait pas trop révéler ce qu'il... Il y avait des choses qui le gênaient beaucoup, en fait. Choses auxquelles il pensait, mais que ça le... Il craignait que ça choque, etc.
Par exemple ?
Ben, en fait, il avait toute une théorie, sa théorie matérialiste. Parce qu'en fait, il a une théorie matérialiste, et quand il va enseigner sa théorie, il va beaucoup choquer d'ailleurs les membres de cette Société de l'Harmonie. Et des disciples dissidents vont essayer de créer des théories alternatives qui, au contraire, sont beaucoup plus spiritualistes, qui tiennent compte du rôle de l'esprit, tandis que lui, c'était totalement matérialiste. Ça, c'est un premier point.
C'était fait pour exaspérer ses anciens maîtres jésuites.
Sans doute. Et il y a un autre aspect très intéressant, c'est qu'en fait, Mesmer est un homme des Lumières, mais c'est un homme qui se méfie de la raison. Et ce qu'il estime, c'est que l'homme, et comme les animaux, il dispose d'une faculté essentielle qui est l'instinct. Et qu'en fait, on perçoit le magnétisme par l'instinct. On est en rapport avec le monde par l'instinct. Et l'instinct, c'est aussi ce qui permet de se soigner. Les animaux se soignent par l'instinct. Donc, il y a quelque chose d'essentiel qui est en fait l'instinct qu'il faut cultiver. Et là, c'était quelque chose qu'il avait beaucoup de... C'était en fait le cœur de son secret, je pense. Et il ne souhaitait pas vraiment le révéler. Il l'a finalement révélé, mais c'est simplement, justement, dans la Société de l'Harmonie. Donc, en fait, il a fait sa découverte en 1774, du magnétisme animal, et il donne ses premiers enseignements, il donne cette théorie, en 1784. Et il va tout révéler véritablement... Et ça, très peu de gens le savent, en 1814, donc encore beaucoup plus tard, lorsqu'il publiera en traduction allemande son grand traité qu'il avait rêvé de faire, mais qu'il n'arrivait jamais réussi à faire, et qui s'appelle le Mesmerismus, où là, effectivement, est exposé dans sa totalité ses conceptions, à la fois sur la physique, donc le fluide universel, mais aussi... Sur ses conceptions neurologiques, physiologiques, même psychologiques.
Et là, son temps a passé et sa notoriété a beaucoup décru. En attendant, retrouvons-le à Paris et on le trouve naturellement en face des académies, en face de l'Académie des sciences, de la Société de médecine, qui sont de plus en plus irrités par ce personnage populaire et qui échappe à leur emprise. D'où en particulier des commissions d'experts pour tâcher d'aller déceler ce qu'il peut y avoir de charlatanisme à leurs yeux dans les conceptions de Mesmer.
Exactement. Donc c'est une histoire très intéressante, assez complexe. D'abord, premièrement, je rappelle, on l'a très vite évoqué, que Mesmer, lorsqu'il est arrivé à Paris, a tout de suite voulu, comment dire, avoir le soutien des académies. Ça a complètement échoué. Et donc, plusieurs années se sont passées où il s'est tourné vers le public, les patients, etc. Il a eu ce succès.
Médecin, je suis toujours. Je suis médecin et je veux l'approbation des médecins, mais il ne l'obtient pas.
Donc, il a cherché la faculté de médecine, etc. Je passe, il y a eu plein d'épisodes complexes. Et finalement, il a créé cette société de l'harmonie universelle où là, cette fois-ci, il va enseigner à des gens qui ne sont pas nécessairement des médecins. Et là, le succès est énorme. Il y a des personnages très importants qui vont venir, comme le marquis de Lafayette, comme des gens qui appartiennent à la cour.
Lafayette, qui, lorsqu'il part pour les États-Unis, écrit à Washington pour lui parler de découverte de Mesmer. « J'en sais autant qu'aucun sorcier en sut jamais. Avant de partir, j'obtiendrai la permission de vous confier le secret de Mesmer, le secret qui, vous pouvez y croire, est une grande découverte philosophique. » Et en face, naturellement, un certain nombre de personnages illustres qui sont très hostiles. Et la commission des experts, excusez-moi du peu, il y a Franklin, il y a également l'astronome Bailly, celui qui sera le premier président de l'Assemblée nationale au moment du jeu de paume, qui d'ailleurs mourra exécuté. Le docteur Guillotin, c'est lui dont la machine tuera Bailly, etc. etc.
Oui, donc...
Condorcet aussi.
Il faut comprendre, premièrement, que cette commission répond aux soucis des médecins, surtout, et aussi des académiciens, de lutter contre toutes les formes de charlatanisme. Mais c'est aussi une opération politique, en fait. Ça a été commandité par le ministre de la Maison du Roi, le baron de Breteuil, très clairement, parce que ça fait partie des luttes de clans à la cour. Il y a des gens qui visent certaines personnes, en fait, qui participent à ce mouvement. Et donc, ces commissions sont nommées. En fait, il y en a deux, mais passons. La principale, c'est la commission où les membres les plus importants sont des académiciens. Donc, on a les personnages que vous avez cités. J'en rajouterai un qui est très important, qui est Lavoisier, le chimiste. Parce que c'est lui, en fait, qui va inspirer la méthodologie qui va être utilisée par la commission. Et donc, c'est très important dans l'histoire des sciences. C'est resté une page importante, la condamnation. Parce que finalement, ils vont dire « ce fluide n'existe pas ». Parce qu'ils vont ils vont faire une enquête assez approfondie, disons, et ils vont utiliser des expériences en simple aveugle. C'est-à-dire, on magnétise quelqu'un sans qu'il le sache, bon, les yeux ou à son insu, tiens, on voit ce qui se passe. Et on dit à quelqu'un qu'on va le magnétiser, hein, en fait, on ne le magnétise pas et on va voir ce qui se passe. Et... En fait, ce genre d'expérience, ils vont conclure qu'en fait, ça n'a rien du tout.
Expérience scientifique classique.
Classique, mais nouvelle à l'époque. Ben, ils vont conclure que le fluide n'existe pas, que c'est une pure invention, en fait. Que c'est le fruit de l'imagination des malades, voire du thérapeute.
Il y a une autre critique qui se greffe souvent, c'est celle qui dénoncerait une atteinte aux bonnes mœurs.
Je pense que c'est aussi très important, d'ailleurs. La commission va faire un rapport qui sera publié. Il va faire un rapport dit secret qui sera envoyé au roi, qui ne sera publié que plus tard, pendant la Révolution, qui dénonce aussi les dangers, disons-le, sexuels de ces pratiques de magnétisme.
Les sens vont s'allumer.
Atteinte aux bonnes mœurs.
Les sens vont s'allumer.
Exactement. Et donc, c'est lié aussi à quelque chose qui a énormément choqué, qui était quand on magnétisait quelqu'un, souvent le malade entrait en convulsion. C'est comme ça qu'on appelait. Donc une crise très spectaculaire, de douleur, de cris, etc. Et donc ces convulsions qu'on va retrouver chez Charcot, hein, à la Salpêtrière.
Au 19e siècle.
Ça a énormément choqué. On a vu, donc c'était souvent des femmes. Ces convulsions, on a estimé que c'était inadmissible, que c'était aussi non seulement il y a une dimension sexuelle évidemment, mais aussi voilà une expression, je dirais, complètement inappropriée pour des personnes parfois de condition de s'exprimer de cette manière-là.
Alors notre Mesmer auquel nous consacrons Bruno Belotte cette émission, comment réagit-il à ces attaques? On est en pleine sociologie des pouvoirs médicaux, des pouvoirs scientifiques.
Alors il est indigné, évidemment il rejette totalement la condamnation. En plus, comme il avait refusé de participer à l'enquête s'est faite chez son disciple dissident Delon. Donc il dit Delon n'y connaît rien, donc il rejette catégoriquement. Il rejette catégoriquement les résultats de l'enquête et il dit « je m'en vais ». Disons, c'est un moment essentiel parce que très vite, à la suite de cette condamnation, Mesmer et ses partisans vont tenter une contre-offensive, donc publier beaucoup de textes, etc. Mais au fond, le mouvement va éclater. C'est la fin. Et donc Mesmer, en fait, quittera Paris assez rapidement et à la suite de cette condamnation. Et un point très important, je voudrais souligner ici, compte tenu de cette condamnation, les partisans de Mesmer vont essayer d'occulter les aspects les plus scandaleux. Et donc là, on a un disciple de Mesmer qui est resté célèbre, qui est le marquis de Puységur.
Ah, ça, c'est, on est dans le somnambulisme.
Voilà, le somnambulisme magnétique. Et le somnambulisme magnétique, où la personne qui est en état d'hypnose s'endort, en fait, et va, a le grand avantage que la personne n'est plus en état convulsif, en fait. C'est très calme, c'est très doux.
Oui, mais il se promène sur les toits, c'est peut-être dangereux.
Oui, ça, c'est le somnambulisme naturel, mais dans le somnambulisme magnétique, c'est sous contrôle avec le magnétiseur, avec le thérapeute.
Il faut que nous évoquions, pour finir, Bruno Bellost, ce qu'a pu être la fin de vie et surtout, je peux dire, le destin posthume de votre Mesmer, qui est un destin varié, où s'opposent deux traditions à partir de cet homme qui, au fond, rêvait d'une reconnaissance scientifique et qui a eu celle du grand public, qui a cherché à prouver l'existence d'un fluide magnétique et qui a découvert le pouvoir thérapeutique de l'influence psychique.
Donc, en fait, Mesmer, j'allais dire, presque disparaît de la scène en 1785-86. Il va beaucoup voyager. On le retrouve à Vienne, on l'a évoqué à propos de Mozart. Et puis il va s'installer, il va revenir dans sa patrie. Et il va mourir simplement en 1815. Donc il a une vie assez longue, en fait, après.
Bon, Robert Danton, le grand historien américain, a insisté sur le rôle que son milieu aurait pu avoir à l'origine de la Révolution française. Je me rappelle que vous l'avez interviewé il y a quelques années à ce propos.
Ah oui, c'est-à-dire que c'était la thèse de Danton, qui a une part de vérité, disons, qui est que dans cette période de pré-révolution, il y a des gens qui vont s'organiser progressivement, et ce lieu de sociabilité qui est la Société de l'Harmonie, en fait, va être un de ces lieux, avec en particulier un personnage qui a été celui qui a monté, en fait, la Société de l'Harmonie avec Mesmer, qui s'appelle Bergasse, qui ensuite jouera un rôle important à la veille de la Révolution dans toutes ces sociétés politiques qui vont organiser la résistance, si je puis dire, à ce qu'on appelait le despotisme ministériel.
Mesmer va vivre encore longtemps dans une demi-obscurité, en s'efforçant de faire la synthèse, vous le disiez, de ce qu'il a pu créer, inventer, imaginer, découvrir, et il meurt octogénaire, ce qui est un grand âge à l'époque.
Absolument, il meurt assez âgé, enfin bon, il n'était pas le seul à vivre jusqu'à cet âge-là à l'époque, rassurons-nous, mais bon, c'est vrai, il meurt assez âgé. Et il publie son grand œuvre, je l'ai dit tout à l'heure, en 1815. C'est intéressant parce que s'il a publié ce grand œuvre, c'est avec le soutien des romantiques allemands, des gens qui, à Berlin, vont créer la philosophie, Naturphilosophie, qui est la philosophie de Schelling. Ça n'a rien à voir avec, en fait, les idées de Mesmer, mais en fait, Mesmer va être réinterprété dans ce cadre. Et donc, il y a toute une postérité de Mesmer en Allemagne, qui est lié à la médecine romantique.
On le retrouve en France dans toute la littérature, Chateaubriand, Victor Hugo, Stendhal, Delacroix aussi, Madame de Staël, et aux États-Unis, Edgar Poe.
Oui, il y a un Mesmer qui est réinventé, en fait, dès le 19e siècle, et qui est très intéressant, c'est le Mesmer des romanciers, en fait, et en particulier d'Alexandre Dumas. Donc là, on a un personnage imaginaire qui va quand même, je pense, jouer le roman de Dumas va jouer un grand rôle. Et en France, il y a toute une tradition très puissante du magnétisme animal, sauf que, disons que c'est plutôt la tradition du marquis de Puységur, en fait, celle du somnambulisme magnétique. Donc quand on parlera de magnétisme animal au XIXe siècle, en tout cas en particulier en France, en fait on fait beaucoup plus allusion à l'hypnose au sens où on l'entend qu'au magnétisme animal tel que le décrit le premier témoin qu'on a entendu au début, quelque chose de physique. Et donc, il y a cette tradition très importante du magnétisme animal, mais où Mesmer est considéré comme un précurseur, mais quelqu'un de complètement dépassé.
Et il retrouve une présence, peut-être inattendue, au XXe siècle, avec la psychanalyse. Je citais le mot favorable de Freud sur lui. Et cette sorte de renouveau rétrospectif mérite qu'on s'y attarde pour finir un bref instant, Bruno Bellost.
Effectivement, la tradition de la psychanalyse, au cours du XXe siècle, la psychanalyse et les psychothérapies en général vont conduire à se réintéresser au personnage de Mesmer. Donc c'est déjà, au début des années 30, le livre de Stefan Zweig, qu'on lit encore, qui est une très bonne biographie, même si elle est très courte.
La guérison par l'esprit, qui a été bien reçue par Freud.
Oui, donc Stefan Zweig connaissait très bien Freud, et donc lui a envoyé sa biographie, mais aussi...
Il y a deux biographies, notamment, qui sont jouxtées. C'est celle de Mesmer et c'est celle de Freud.
Exactement.
C'est un symbole, non ? Ce voisinage.
Un très bon voisinage. Et Freud, donc, Stefan Zweig a envoyé à Freud sa biographie, évidemment, mais aussi celle de Mesmer. Et donc, Freud a été ravi. Il a dit, c'est une excellente biographie. Mmh. Ah oui, il acceptait parfaitement cette comparaison.
Et puis, aujourd'hui, il y a toutes sortes de résurgences de Mesmer dans des films, dans différentes expressions d'une littérature populaire.
Oui, voilà. Il y a aussi un Mesmer populaire. On l'a évoqué avec Mesmer avec deux S. Il y a les films, il y a des romans, dont certains d'ailleurs sont de très bonne facture, que je conseille de lire, qui sont tous, enfin, il y en a trois ou quatre au moins, peut-être même plus, qui sont en livre de poche, facile d'accès.
Donc, Mesmer, votre Mesmer, Bruno Bellost, est vivant. Et naturellement, votre biographie en témoigne. Franz Anton Mesmer, le magnétiseur des Lumières, paru chez Armand Collin en 2024. Vous avez également, vous faites paraître ces jours-ci, un collectif avec David Armando, Jean-Luc Chappet et Claire Gantet, le magnétisme animal en mouvement. Reconfiguration et circulation 1776-1848 aux éditions Schwabe-Verlag. Et puis, parmi vos autres ouvrages, plusieurs seront cités en ligne, bien sûr. Je voudrais nommer votre livre consacré au Paris savant, c'est le titre. Parcours et rencontres au temps des Lumières. Chez Armand Collin, en 2011, vous avez aussi travaillé sur l'école polytechnique à l'époque de la Révolution française et ensuite. Et puis, nous avons évoqué en passant Robert Danton, qui est venu souvent à ce micro, la fin des Lumières, le mesmérisme et la Révolution. C'était sa thèse, en fait, soutenue il y a près de 60 ans, paru en français chez Perrin et réédité chez Odile Jacob en 1995. J'ai le goût de conclure en observant qu'en anglais, to mesmerize veut dire fasciner. Merci, Bruno Bellost, de nous avoir fascinés ce matin. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Jeanne Guéroux, réalisée par Vincent Abouchard, avec Adrien Gaza à la prise de son, Nathalie Rouvillain à la discothèque et Delphine André pour les archives de l'INA. Toutes collaborations qui sont pour moi sans prix.